Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le Forum du studio Kalungu. N'oubliez pas, nos programmes sont diffusés par un réseau dynamique de 52 radios et 7 télévisions partenaires dans tout le Niger. Le nouveau décret de 2022 portant régime des ONG et associations de développement et l'apport pour ces associations et organisations, c'est le thème de notre émission de ce jour. Les organisations non gouvernementales de développement sont régies par le décret du 25 septembre 1992 portant modalités d'application de la loi du 20 mai 91 modifiant l'ordonnance du 1er mars 84 portant régime des associations. Après 30 ans de mise en œuvre, il a été relevé que ce décret ne répond plus aux besoins d'encadrement des ONG en raison de l'accroissement exponentiel de leur nombre et des ressources importantes qu'elles gèrent. C'est ainsi que, sur rapport du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire, le gouvernement a adopté au cours du Conseil des ministres du 24 février 2022 un projet de décret portant modalités d'application de la loi sous le régime des associations dans le but d'assainir le secteur au Niger. Mais quel est réellement l'objectif de l'adoption de ce décret? Que comporte-t-il réellement? Quel est l'importance pour les ONG et associations de développement au Niger, quelles sont les limites de cette décision et que faire pour permettre à ces organisations d'intervenir pleinement au bonheur de la population nigérienne? À ces questions et à bien d'autres, nous tenterons de trouver réponse avec nos invités. Dans ce studio, nous avons M. Abdou Bacharou Souleymane. Il est le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons au bout de la ligne Boubacar Iliassou du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab. Bonsoir Boubacar.
Bonsoir. Comment vous allez?
Dieu merci et merci d'être au bout de la ligne pour ces 45 minutes à suivre. Je suis une fille Adam Sifo à la modération. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au programme de Studio Kalungu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je donne donc la parole à notre invité présent dans ce studio. Il s'agit de M. Abdou Bacharou Souleymane. Il est le secrétaire général du ministère de l'Aménagement du Territoire et du Développement Communautaire. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, madame.
D'abord, veuillez nous expliquer, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce qu'on entend par ONG ou association de développement?
Merci au studio Kalungu pour l'occasion qu'il nous donne pour donner des explications aux auditeurs sur le décret. Maintenant, par rapport à la question introductive que vous avez posée, ce qu'il faut retenir, c'est que de façon générique, l'association est définie comme lorsque deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs capacités de façon permanente et de plein gré, donc de façon volontaire, il n'y a pas d'obligation, en vue de réaliser des activités dans un but commun autre que celui de partager des bénéfices. Mmh. Donc ça, c'est la définition générique qui est donnée à une association. Mmh. Mais il se trouve que nous avons une variété d'associations. Mmh. Il y a des associations qu'on appelle des associations particulières, mmh, et les ONG font partie donc de ces associations particulières. Mmh. Et c'est pour ça que notre dispositif juridique a précisé ce qu'on entend par ONG de développement au Niger. Oui. Alors, par ONG de développement, il faut comprendre des organisations apolitiques sans but lucratif.
C'est-à-dire?
Alors, une ONG ne fait pas de la politique. La politique est réservée aux partis politiques qui se déclarent clairement dans ce secteur.
D'accord.
Une ONG aussi doit clairement faire apparaître qu'elle ne fait pas de la politique.
Mmh.
Et elle doit aussi être à but non lucratif.
Mmh.
Alors, être à but non lucratif, ça veut dire qu'on ne poursuit pas la recherche du gain.
Oui.
Et si jamais, parce que ça peut arriver, les activités de l'ONG l'amènent à réaliser des excédents.
Mmh.
Donc cet excédent-là doit être réinvesti pour la poursuite de l'objet social donc de l'ONG.
Mais quelle est la grande différence entre une ONG et une association?
Alors, Dans beaucoup de cas, on voit que les associations œuvrent pour leurs membres. Ça veut dire qu'ils ne peuvent accéder aux bénéfices ou aux services de cette association que celui qui adhère. Vous n'êtes pas membre, vous n'accédez pas aux services. Par contre, et c'est ça la grande différence, les ONG sont créées par des personnes physiques ou morales qui sont animées, qui sont d'abord autonomes vis-à-vis de l'État. C'est pour ça qu'on dit non-gouvernemental, animées d'un esprit de volontariat qu'elles mettent au service des autres. Pas elles-mêmes, donc des autres, donc en vue de les appuyer dans le domaine de développement, dans le domaine économique, dans le domaine social.
Mais comment elles fonctionnent d'abord de leur ouverture? Il faut d'abord une autorisation. Comment elles fonctionnnent? Elles sont régies, tout ça, comment elles fonctionnent?
Alors, au Niger, nous avons un encadrement juridique, en tout cas assez clair pour ce qui concerne les ONG et qui consacre le régime de l'agrément préalable. C'est-à-dire qu'avant de commencer à exercer, ce n'est pas seulement les ONG, c'est toutes les associations au Niger doivent d'abord être agréées ou autorisées à exercer. Donc c'est comme ça. Alors il faut d'abord que les personnes qui s'entendent donc, sur des objectifs donc, autour des statuts, statut c'est le contrat qui lie les différents membres. Un règlement intérieur qui détaille comment tout ça là, doit être mis en œuvre et d'un plan d'action qui donne la vision même de ce que l'association ou l'ONG veut faire. Donc, autour de ça, les membres se réunissent et décident de la constitution.
D'accord.
Une fois qu'elle est constituée, maintenant, on engage le processus d'autorisation d'exercice. Et c'est cette démarche-là donc, qui est définie et précisée dans le dernier décret qui a été.
Et à la date d'aujourd'hui, comment se présente la situation de ces ONG ici au Niger en termes peut-être de chiffres?
Alors, en termes de chiffres, je vais vous donner peut-être une évolution qui va vous édifier. C'est que la situation que nous vivons aujourd'hui résulte d'une politique engagée déjà par les différents gouvernements qui se sont succédés. Et ce que nous avons appelé la politique d'émergence des ONG, donc, qui a pris son origine autour du début des années 90. Et en 1990, on avait au total au Niger 60 ONG. Et parmi ces 60 ONG-là, il y avait 11 ONG nigériennes. Les 49 autres étaient des ONG étrangères qui étaient venues donc s'installer pour aider le peuple. Alors, cette politique a créé un cadre juridique, administratif, financier et fiscal, incitatif. Et la liberté d'association aussi a été consacrée par les différentes constitutions que notre pays a connues. Fort heureusement, donc, les citoyens ont saisi cette opportunité et ils ont créé, en tout cas, beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG.
Les chiffres ont évolué aujourd'hui.
Les chiffres ont évolué parce que de 60 ONG en 90, nous étions à 3741 ONG à la fin de l'année 2021. Ça continue parce que c'est à peu près 250 autres ONG qui ont été créées au cours de l'année 2022.
D'où la nécessité d'encadrer vraiment ce secteur.
Oui, la nécessité d'encadrer est apparue non pas seulement à cause du nombre, mais la politique d'émergence a amené donc le gouvernement avec la participation des citoyens, parce que ce sont les citoyens qui créent les ONG, donc à faire émerger un mouvement des ONG qui construit un véritable instrument d'appui au développement, mais aussi de réponse aux crises et aux catastrophes que malheureusement notre pays a connu beaucoup ces dernières années, et avec les changements climatiques et tout ce qui se profile, donc l'insécurité, donc il faut s'attendre encore à ce que...
Donc
c'est un précieux instrument d'appui au développement et de réponse.
Avant donc de poursuivre ce débat, je donne la parole à notre invité qui est au bout de la ligne. Il s'agit de M. Boubacar Iliassou. Il est du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba. Vous présentez-nous d'abord à votre structure, Boubacar.
Donc, bonjour et merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Plaisir à vos milliers d'auditeurs de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons et dans quel domaine nous intervenons. Donc, nous nommons Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotaba, qui est un regroupement des 23 ONG associations et développement, donc qui ont décidé de mettre leurs efforts en commun pour participer donc au développement du Niger. Et il y en a ceux qui travaillent dans des secteurs différents. Vous avez ceux qui sont dans les défenses des droits humains, vous avez ceux qui sont dans le domaine du développement carbone, vous avez ceux qui travaillent dans le domaine de l'environnement, celles qui travaillent dans le domaine des énergies extractives, et ainsi de suite. Maintenant, nous travaillons particulièrement sur des questions de finances publiques, des questions de la transparence dans les industries extractives, et les domaines aussi de la gouvernance de manière globale. C'est structuré de la façon suivante. Nous avons un conseil d'administration, nous avons un secrétariat exécutif permanent et nous avons des antennes ou des coordinations régionales et des représentations dans les différentes communes du Niger. Je vais maintenant notre façon de travailler.
Justement, oui, comment vous fonctionnez?
Comme nous sommes engagés à mettre nos efforts en commun pour participer au développement, eh bien, à notre création, nous avons déjà un certain nombre d'expertises, puisque je vous ai dit que c'est un réseau, donc chacune des organisations qui est venue à ça, à son domaine et à une expertise propre à elle qu'elle développe. Donc de ce point de vue, à chaque fois qu'il y a une situation sur laquelle nous devons d'apporter notre contribution, alors la structure, les structures compétentes dans le domaine interviennent. Maintenant, comment ça arrive à intervenir? Il y a des interventions qui ne nécessitent pas de moyens. Donc là, c'est notre volontariat, puisque c'est de manière volontaire que les gens ont accepté d'être ensemble. Donc c'est ce volontariat que nous utilisons pour le faire. Maintenant, il y a d'autres activités qui nécessitent des moyens pour pouvoir le faire. Alors pour le faire, ce que nous faisons, nous candidatons à travers les appels d'offres, donc les appels à projets que des partenaires internationaux lancent. Et sur cette base, nous sommes souvent sélectionnés sur la base donc des critères que le partenaire a élaborés et que nous répondons à ces critères. C'est sur cette base que nous arrivons souvent à avoir des financements qui permettent donc à l'organisation de faire des réalisations. À titre illustratif, nous pourrons vous donner par exemple l'accompagnement des communes dans la mise en œuvre du budget participatif, qui est une démocratie à la base, donc à travers laquelle nous permettons aux autorités donc communales, donc l'exécutif communal, de se mettre en relation directe et de consulter l'ensemble des citoyens de manière participative sur leurs besoins et arrêter un processus donc de l'Assemblée générale villageoise jusqu'à l'Assemblée générale communale, où il arrête l'ensemble des préoccupations par village, par quartier et par an, ce qui va être exécuté par les communes. Il y a aussi un autre aspect sur lequel nous travaillons, c'est par exemple la question des litiges, la question des litiges, l'initiative pour la transparence des énergies extractives, donc qui met en jeu trois partenaires principaux, qui sont l'État, les ONG et les entreprises extractives, pour pouvoir faire la promotion de la transparence. Il est demandé aux compagnies et entreprises extractives de dire par an combien ils ont payé à l'État du Niger.
Justement.
Et puis aussi, l'État a pris l'engagement de dire combien il a reçu des compagnies. Et on fait donc une réconciliation des chiffres pour voir où se trouvent les différences entre ce que l'État a dit et ce que les compagnies ont eu à déclarer. Et aussi, dans ce même processus, ça participe à la question de la transparence, parce que ça permet aux citoyens de savoir combien, par exemple, l'or du Niger a rapporté, combien l'uranium du Niger a rapporté par an, combien le pétrole du Niger a rapporté par an.
En gros, vos activités, l'on comprend que c'est vraiment, en résumé, c'est pour la cause vraiment de la population. Merci pour toutes ces précisions, Bacharou. Restez toujours, Boubacar Otan pour moi, restez toujours avec nous pour la suite de ce débat. Je reviens dans ce studio avec vous, M. Abdou Bacharou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Vous venez donc d'entendre l'intervention du représentant du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire (OTAB) sur leur domaine d'intervention, leur activité. Justement, Nous parlons du projet de décret portant modalités d'application de la loi sur le régime des associations qui a été adopté en 2022 dans le but d'assainir le secteur au Niger. Présentez-nous sur ce projet.
Ok, donc ce décret a été adopté le 24 février 2022 par le gouvernement après vraiment un long processus d'échange, de réflexion entre les différentes administrations concernées. Il intervient pour modifier le décret 92-292 que vous aviez mentionné plus tôt. Voilà. Donc, ce décret 92-292 qui a été pris en 1992 a été adopté dans des conditions de promotion des ONG, donc en lien avec la politique de l'émergence des ONG. Donc, il y avait beaucoup de souplesse, beaucoup de facilité, vous avez vu le résultat qu'on a eu. On est passé donc de 60 ONG, comme j'ai expliqué, à plus de 3 741 ONG. Et le volume de financement aussi s'est accru parce que les études que nous avions faites au ministère, sur la période par exemple 95-99, ont montré que les ONG dépensaient en moyenne par an 7,6 milliards.
Oui. C'est énorme ou bien...
C'était énorme à l'époque, mais ça va vous donner le vertige peut-être quand je vais préciser maintenant. Et pour la période 2017-2021, donc les 7,6 milliards là sont montés à 121 milliards par an. Alors, quand je dis ça aussi, c'est qu'il faut nuancer parce que c'est seulement 20 ou 25% des ONG qui ont accepté de déposer leur rapport, alors que quand même les règles administratives et juridiques, donc chaque ONG est tenue quand même de déposer un rapport annuel d'activité, un programme annuel d'activité. Mm-hmm. Et c'est ça qui nous permet nous, de faire la compilation et de montrer l'importance de leur intervention et aussi d'amener le gouvernement à leur apporter tous les soutiens dont ils peuvent avoir besoin pour qu'ils continuent à développer leurs prestations.
Et cela leur permettrait d'avoir beaucoup plus de financement.
De financement, de faciliter, en tout cas de créer un environnement qui leur soit favorable. Donc vous voyez, on a un problème de transparence. Donc à peu près 75% d'ONG dont on ne sait pas. Pourtant, on les voit, on voit leurs véhicules, ce qu'il est dans les villages, dans la ville, mais il n'y a pas de rapport, on ne sait pas ce qu'ils font. Donc ça constitue un problème. Et c'est le montant que je vous ai donné représente à peu près 13% des dépenses que l'État a faites dans le cadre de la mise en œuvre de PDS, qui constitue notre document d'orientation en matière de développement.
Donc c'est problématique.
C'est problématique parce que dans certaines années aussi, cette proportion est allée jusqu'à 17%. Et je vous dis que c'est 20-25%. Donc, en réalité, ça dépasse largement. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'on risque de perdre la maîtrise de notre politique de développement si on n'a pas la visibilité, la maîtrise sur ce que les ONG sont en train de faire. Alors que quand même, l'agrément qui leur est accordé, c'est pour accompagner l'État. Ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Et si on n'a pas d'information, de visibilité, de lisibilité, ça pose un problème. Alors, l'autre aspect aussi, c'est que vous voyez, notre pays est confronté depuis quelques années à une situation d'insécurité. La situation d'insécurité provient de plusieurs facteurs, mais elle peut aussi être alimentée afin de protéger les ONG contre les risques d'instrumentalisation afin de financement du terrorisme. Donc, un certain nombre de mesures ont été prises d'abord au niveau communautaire à travers l'UEMOA. Et cette directive de l'UEMOA a été transposée dans l'ordonnancement juridique du Niger. Et nous aussi, on l'avait reprise pour la répercuter donc, sur les textes. Ça, c'est pour protéger les ONG. Parce que lorsqu'on voit se rendre compte que c'est par les ONG qu'on passe pour créer, vous voyez le type de décision qu'on peut prendre, ça risque de compromettre l'ensemble du mouvement. Alors qu'il y a peut-être une ou deux ou trois qui sont rendus coupables de... L'autre aspect aussi, il y a la question de l'alignement de leur intervention. Donc, vous voyez, 13%, c'est important. Surtout qu'elles sont au niveau de la base. Elles sont au niveau des communes, elles sont au niveau des populations vulnérables. Donc, les interventions doivent avoir le maximum de qualité pour alléger les souffrances de notre population. Or, on voit que souvent, les interventions ne cadrent pas avec les priorités de ces populations-là. Aujourd'hui, dans toutes les communes du Niger, nous avons un plan de développement communal, un plan d'investissement annuel. Donc, lorsque une ONG veut intervenir, la première des choses, c'est de se référer à ce document d'orientation communale et d'aligner ses interventions aux priorités que la commune a définies.
Merci donc, monsieur le secrétaire général Boubacar Iliassou.
Oui.
Ce décret qui a été adopté en février 2022, vous, vraiment, comment avez-vous accueilli cette décision du gouvernement du Niger?
Merci pour l'opportunité que vous nous offrez de nous prononcer sur un sujet aussi important. Donc, pour nous, en tout cas, de par un certain nombre de mesures contenues dans le décret cité, nous trouvons qu'il est très limitatif en termes donc, d'exercice et de possibilités qu'ont les ONG de pouvoir travailler et à mobiliser de l'argent dans le cadre du travail d'accompagnement de l'État.
En quoi il est limité selon vous?
Il y a un certain nombre de dispositions de cet article, donc de ce décret, qui restreignent la possibilité en le conditionnant, par exemple, par une autorisation du gouvernement pour recevoir du financement de certains partenaires. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi, c'est les questions, par exemple, du contrôle. Quand je dis contrôle, je parle, par exemple, d'une disposition qui dit que quand vous faites une intervention dans un domaine bien précis, à la fin, par exemple, de la réalisation de votre projet ou de votre programme, l'ensemble, par exemple, de matériel ayant servi, ça peut être des véhicules, ça peut être des machines, autres, devra être automatiquement rétrocédé à l'État, que ce soit comme on a. Alors que, par exemple, dans le cadre des interventions, vous pourrez avoir un partenaire. Ce n'est pas tout le partenaire qui a les moyens de vous accompagner, par exemple, ou de financer, de vous permettre d'acquérir la logistique pour faciliter votre déplacement sur le terrain pour faire le travail. Donc, ça veut dire, du coup, dès que vous finissez de travailler avec ce partenaire, vous n'avez plus la possibilité de garder le moyen logistique pour l'utiliser à d'autres, à la réalisation des autres prestations pour les citoyens. Je vous donne un exemple simple. Il peut y avoir un partenaire qui accepte juste de vous financer une activité de sensibilisation pour, par exemple, sur l'ensemble du territoire. Vous avez un véhicule. Si vous devez louer un véhicule, la location des véhicules dans cette zone, c'est un truc qui varie, par exemple, de 60 à plus. Il y a même des endroits où jusqu'à 100 000 on peut vous donner une faute. Donc, rien que pour ça, pour les questions de location de ces véhicules-là, ça peut prendre plus de la moitié, voire même au-delà de la moitié du budget de votre structure.
Monsieur le secrétaire, je ne sais pas vous couper la parole. Il a évoqué un chiffre, environ 121 milliards qui sont vraiment destinés à vous, les aux ONG locales, pour leur intervention.
Oui, ce montant-là. Par exemple, nous interagissons avec les différents services. L'État, c'est un tout, c'est plusieurs services. Vous voyez, par exemple, le ministère de l'Intérieur. Il y a des interactions entre le ministère de l'Intérieur et les ONG. Il y a des interactions entre le ministère des Finances et les ONG. Il y a des interactions entre le ministère des Mines et les ONG. Ainsi de suite. Chaque ministère, selon votre domaine d'intervention, vous avez des liaisons. Premier aspect. Le second aspect, c'est que tout ce que les ONG mobilisent comme ressources, ça passe nécessairement parce qu'il n'y a aucun bar de fonds qui accepte de vous donner de l'argent liquide comme ça, c'est à travers des fonds.
Donc, sont des justificatifs également, oui.
Oui, c'est-à-dire l'État a un contrôle des banques. Donc l'ensemble des financements qui entrent par les banques, l'État a la possibilité de savoir combien sont rentrés et comment ils ont été dépensés. Maintenant, ceux qui donnent aussi, parce que c'est des partenaires, la plupart, c'est les Occidentaux qui donnent. Donc, eux, chez eux, il y a un contrôle parce que c'est les impôts de leurs concitoyens qu'ils prennent pour amener ici. Donc, il y a une rigueur de contrôle qui permet de savoir ce qu'on vous a donné, est-ce que réellement vous l'avez utilisé dans le cadre. À la fin, ils viennent auditer. Il faut d'abord un suivi, il faut une évaluation, il faut un audit de l'ensemble de ce qu'ils vous ont donné. Est-ce que réellement ce qu'ils vous avez
donné? C'est ce qu'ils viennent, c'est ce qu'ils viennent d'évoquer.
Voilà, donc ce qu'ils vous ont donné, est-ce que ça a été réellement utilisé dans le bon sens? Si vous n'utilisez pas dans le bon sens, demain vous n'aurez pas d'autres financements. Donc, ça veut dire que personne n'est prêt à justifier les sources de financement sur la base du fait de ne pas justifier ce que vous avez donné. Donc, de ce point de vue, je pense que l'argument tel qu'il est avancé, nous pensons que ce n'est pas aussi nécessaire que ça. Et l'autre aspect, c'est que la crainte, lorsqu'il faut avoir une autorisation, par exemple, du ministère pour avoir un financement, ça veut dire que toutes les ONG qui ne sont pas des mêmes, ou qui sont critiques, peut-être qui critiquent sur les actions du gouvernement, ne pas accéder à des financements sur la base de ce décret-là. Et donc, c'est la crainte qui nous anime de ce point de
vue. Bien que les autorités avancent la raison de cette adoption, qui est vraiment d'assainir et améliorer les performances de vos activités, vous, différentes ONG et associations de développement, vous pensez que vraiment ce décret comporte des limites. Mais de l'adoption à la date d'aujourd'hui, quel est vraiment le grand changement que vous avez constaté dans vos différentes activités?
Bon, pour le moment, il va vous le dire, c'est que ce n'est pas totalement en application. Mais je vous avoue que si ça commence à être en application, presque toutes les ONG vont fermer parce qu'ils ne pourront pas tenir. Mais pour le moment, il y a un moratoire. Ils ont commencé à regarder juste certaines parties. Le décret n'est pas en application totalement. Mais le jour où ça va être appliqué totalement, je vous fais la confidence que presque toutes les ONG vont fermer du fait qu'ils ne peuvent pas tenir telles que les exigences sont élaborées, ou du moins sont énoncées
Restez avec nous. Monsieur le secrétaire général, le représentant du ROTAB avance que ce décret comporte autant de limites pour leurs différentes activités. Quelle réaction après?
Je pense que peut-être l'un des intérêts de ce débat, c'est de relever quand même que beaucoup d'acteurs n'ont pas bien lu le décret. Donc, nous, peut-être ça nous interpelle, on doit renforcer la communication pour qu'il soit mieux compris. Parce que ce que M. Boubacar vient de dire doit être nuancé et je vais expliquer. Alors, pour ce qui concerne la question du matériel dont elle a parlé, je pense qu'il parle de l'article 27 du décret. Donc, je voudrais le lire. Alors, l'article 27 dit « Le matériel roulant, le matériel volant et les hors-bord importés par les ONG de développement étrangères dans le cadre de l'exécution des projets et programmes est placé sous le régime de l'admission temporaire pour la durée du projet et du programme. À la fin du projet ou du programme, ce matériel est cédé à titre gracieux à l'État qui décide de l'affectation du dit matériel. » D'abord, cela s'adresse aux ONG étrangères. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que des projets sont élaborés pour être exécutés au Niger. Et pour qui connaît c'est quoi un projet, la première partie du projet présente la situation. Et cette situation-là, qu'on appelle souvent diagnostic, contexte et justification, présente la misère du peuple nigérien. Et c'est avec cette misère qu'on va toucher la sensibilité des partenaires pour mobiliser des ressources. Et lorsqu'on mobilise ces ressources doivent impérativement aller pour alléger, atténuer les souffrances des personnes pour lesquelles ça a été mobilisé. Ce qu'on a constaté, c'est que un certain nombre d'ONG étrangères négocient des projets qui doivent être exécutés au Niger, obtiennent ce financement, mais une fois que les véhicules là, parce qu'il s'agit de ça, les matériels roulants, volants, les hors-bord, une fois qu'ils sont entrés au Niger, quelques mois après, ils prennent une autre destination. On va dire que c'est dans un pays voisin, il y a un projet similaire. Alors, est-ce que le Niger n'a pas besoin de cet équipement-là pour se développer? Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est que, et dans certains cas aussi, on a assisté à des situations ou lorsque un projet ou un programme est achevé, donc ce matériel est vendu aux enchères. Et quand c'est vendu aux enchères, parfois ça ne reste même pas au Niger. On arrive à tracer, ça va dans d'autres pays, peut-être des pays voisins. Or, notre pays, qui est vaste, 1,267,000 km², a quand même besoin de ces véhicules-là pour qu'on aille toucher les populations, les pays. Donc, ça, c'est quelques éléments de motivation qui ont amené, et je précise, j'ai lu, j'invite vraiment les auditeurs ou tous ceux qui sont intéressés donc à lire vraiment et à relire donc ces décrets pour comprendre. Il y a des nuances qui sont là.
Sur le terrain, il n'est pas concrètement mis en œuvre.
Ce qu'il a dit, effectivement, n'est pas concrètement mis en œuvre. C'est une appréciation. Mm-hmm. Et le décret a été pris, et ça fait un an et quelques mois. Mm-hmm. Donc, il y a déjà la période d'entrée en vigueur. Mm-hmm. Et puis, et tout le dispositif qui est en train de se mettre en place, parce qu'il y a des arrêtés qu'il faut prendre pour l'application, un certain nombre d'outils. Mm-hmm. Aussi qu'il faut adopter au niveau du ministère, c'est en train d'être fait au fur et à mesure. Mm-hmm. Tout ce qui est, par exemple, dans le protocole d'accord type, tout ce qui est dans le protocole de mise en exécution, les rapports d'activité, les programmes d'activité, les dispositions relatives au suivi et évaluation. Mm-hmm. Et aussi, il y a un aspect important, c'est que le 16 juin de chaque année, c'est la journée nationale des ONG. On a déjà célébré la première édition, donc le 16 juin 2022, on s'y apprête aussi pour cette année. Donc, on est en train de le mettre en vigueur. Et aujourd'hui, mm-hmm. Nous, le retour d'information, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont manifesté, comme M. Boubacar. C'est juste que ça n'inquiète, mais je voudrais plutôt les inciter à lire plus en profondeur.
Mais comment l'État vraiment va s'assurer? Quels sont les facteurs que l'État va tenir en compte pour vraiment une mise en œuvre de ce décret?
D'abord, premièrement, nous, on va beaucoup travailler sur la communication pour que les ONG comprennent même le sens des différents articles, mm-hmm. puisque c'est un décret nouveau, ça prend du temps peut-être. Parfois, on fait une association d'idées. Voilà. Maintenant, dans un deuxième temps, les outils, déjà, nous avons commencé à travailler avec le collectif des ONG. Mm-hmm. Déjà en mars, ça a été pris en février, mm-hmm. mais déjà en mars, on a un atelier à Maradi mm-hmm. avec le collectif des ONG, mm-hmm. donc de Niamey et de l'intérieur du pays, mm-hmm. donc pour vulgariser le décret.
Mm-hmm. D'accord.
Et nous avons aussi, au niveau des régions, donc formé quelques personnes qui sont en mesure donc, de jouer le rôle de relais pour la vulgarisation de ce décret. Et même pour l'autre disposition dont il parle, ça a été interprété, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Ce qu'on a dit, c'est que pour tout projet, avant qu'il ne soit mis en œuvre, ça doit être approuvé par l'État. Mm-hmm. Alors, ça aussi, il faut comprendre, ce n'est pas le financement, hein. Ce n'est pas le financement, mais la mise en œuvre. Mm-hmm. Oh, oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on a des projets qui ne répondent pas aux besoins de priorité mm-hmm. de population. Mm-hmm. Et c'est juste pour ça. C'est juste pour ça que nous avons aujourd'hui un outil national de planification qui est le PDS. Au niveau de chaque région, nous avons un plan de développement régional et au niveau de chaque commune, nous avons un plan de développement communal. Mm-hmm. Donc, il s'agit de vérifier en fonction de l'envergure, du champ, de la zone d'intervention du projet, si ce projet-là répond aux priorités des populations. Ce n'est rien d'autre que ça. En réalité, nous nous sommes inscrits dans une logique d'amélioration de la performance du secteur des ONG qui, je le rappelle, est un instrument important pour l'État du Niger en matière d'appui au développement et de réponse aux urgences.
Merci. Monsieur Boubacar.
Oui.
Êtes-vous satisfait de la réponse du ministère de l'Aménagement du Territoire?
Bon, à moitié, mais pas totalement.
Est-ce qu'on aura l'occasion certainement de poursuivre cet échange-là? Je pense qu'au bout de nos échanges, vous serez satisfait, monsieur Boubacar.
C'est notre souhait. Mm-hmm. C'est vraiment notre souhait. Parce que par exemple, la dernière partie de son intervention, mm-hmm. où il parle de c'est pas le financement, c'est la mise en œuvre. Mais si vous signez une convention avec quelqu'un, mm-hmm. avec un partenaire qui a pris confiance à vous et qui vous donne l'argent, mm-hmm. et que vous venez, votre État dit que ça ne va pas être mis en œuvre. Mm-hmm. Ça veut dire que la conséquence, c'est quoi? C'est que le partenaire va être amené à demander le rapatriement des fonds et ça va aller quelque part qui n'est pas le Niger. Mm-hmm. Maintenant, il a aussi évoqué la question des ONG qui prennent des véhicules pour aller. Mm-hmm. Bon, le Niger peut prendre des dispositions pour dire que non, tout le véhicule utilisé ne va pas sortir du territoire. Ça peut être ça. Mm-hmm. Et dire, par exemple, la logique que ça soit donné à l'État où ça doit tomber dans le patrimoine. Nous avons souvenance que beaucoup des organisations ont bénéficié, par exemple, des dons des véhicules à la fin des programmes et projets exécutés par des ONG internationales. Mm-hmm. Et ces moyens-là sont en train d'être utilisés pour faire le bonheur des Nigériens à la base, mm-hmm. qui est un moyen. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de zones où vous n'avez pas le transport n'est pas développé. Pour vous rendre compte, il faut avoir un moyen de déplacement personnel. Mm-hmm. Si vous allez attendre le jour, les transports communs, peut-être que pour un programme de 2 jours, vous serez de faire 10 jours.
Ce sont des contraintes auxquelles vous êtes confrontés sur le terrain, oui.
Vraiment, c'est des réalités sur lesquelles nous vivons tout le temps sur le terrain. Donc, ce que nous proposons, c'est de s'asseoir et d'avoir une compréhension non seulement commune, et de recueillir les avis, par exemple, puisqu'on a beaucoup de propositions de réaménagement ou d'amélioration. Du point de vue des principes, nous convergeons sur le fait qu'il faut protéger l'État du Niger et le peuple nigérien.
Mais ce décret a été, avant d'être adopté, vous avez été... Les ONG ont été déjà abordées.
Pas toutes les ONG, certaines. Ils ont plus de corrélation ou de proximité avec le pouvoir en place. Nous, par exemple, moi, je sais que nous n'avons pas été conviés, on n'était pas aux différentes assises. Je sais qu'à un moment, il y avait eu les assises, mais nous n'avons pas été conviés, on n'y était pas. À Maradi, je viens de l'apprendre qu'il y en a eu aussi de ces assises-là. Donc, il y en a beaucoup de questions sur lesquelles, si nous pourrons nous asseoir, on peut trouver la bonne formule en discutant, eux, en avançant leurs arguments, et nous, en faisant des propositions qui sont pour pouvoir avoir le juste milieu pour mieux protéger les Nigériens.
Alors, monsieur le secrétaire général, si une ONG ne respecte pas peut-être les conditions de ce décret, quelle sera la suite?
Bon, le non-respect des dispositions du décret va entraîner des sanctions qui sont définies dans le décret.
Quelles sont ces sanctions?
Alors, ça dépend de la gravité, donc de la faute, que ça va de l'avertissement verbal au retrait d'agrément. Voilà, donc il y a des sanctions graduelles en fonction de la gravité de la faute. Et ça aussi, c'est une innovation parce que le décret de 92, là, et comme je vous disais, c'était vraiment un décret qui a été pris pour une politique d'émergence. Il y avait beaucoup de facilité, il n'y avait pas ce genre de sanctions. Mais aujourd'hui, nous assistons à des cas, je vous dis, c'est extraordinaire. Donc, des violations des règles d'abord internes même, qui concernent les ONG, et puis les dispositions juridiques qui encadrent le secteur, à tel point qu'on ne peut pas rester les mains croisées à observer cela. Et je pense que c'est dans l'intérêt des ONG. Parce que, je vous dis, il y a 3741 ONG, associations de développement.
Pensez que la majorité ne s'acquitte pas pleinement de leur engagement?
La majorité ne s'acquitte pas de l'obligation de dépôt de rapport d'activité, parce qu'on n'a que 20, on a eu par le passé, mais déjà cette année, je pense que ça s'est amélioré. On commence à constater beaucoup d'améliorations suite effectivement à ce décret, donc par rapport au dépôt des rapports d'activité, par rapport à la signature des protocoles d'accord type. Donc là, il y a eu un bond assez conséquent par rapport à la signature des protocoles de mise en exécution. Mais ce qui subsiste, c'est surtout ces inquiétudes qui parfois ne sont pas totalement fondées. Alors pour rebondir peut-être, c'est toujours bon de discuter avec les praticiens. Donc là, vraiment donner un exemple, et ça fait partie des cas, par exemple pour les véhicules où on peut encore les recycler peut-être pour un autre projet. On ne demande que ça. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on utilise la misère du peuple nigérien pour mobiliser des ressources et que le matériel acquis aille ailleurs que pour résoudre ces problèmes-là. Récemment, il y a une ONG qui a fait une proposition avec un certain nombre de véhicules. Le projet sont arrivés à terme. Donc, elle avait besoin pour d'autres activités, toujours au Niger, et en faveur d'un groupe cible bien précis, dans une zone bien déterminée. Donc, le ministère a autorisé l'ONG à le faire. Donc, il ne faut pas peut-être... Et je pense que c'est peut-être un acquis de ce débat-là. Il faut qu'on continue à se parler.
Il faut beaucoup plus de communication.
Pour que les uns et les autres comprennent l'esprit dans lequel et les possibilités qu'on a. En réalité, ce n'est pas des choses qui sont rigides, c'est des principes qu'on a posés et autour desquels je pense qu'on peut... Maintenant, il a aussi parlé du fait que une fois que vous avez le financement, si le gouvernement... En réalité, c'est quoi? Normalement, une ONG qui élabore un dossier de projet doit le faire de façon participative, avec d'abord les populations pour lesquelles c'est destiné, avec les autorités locales, les maires qui sont là.
Les différentes
activités à faire doivent être définies de commun accord avec les parties prenantes, comme on dit. Avec aussi les services techniques qui gèrent les politiques de l'État. Parce que tout ce qu'on doit faire au Niger doit être conforme aux politiques que le gouvernement a
Sinon, on ne sera jamais dans une situation de développement.
Monsieur Aboubakar, mais est-ce que vous, à la date d'aujourd'hui, vous respectez vraiment certaines dispositions dont le secrétaire général a fait cas, c'est-à-dire le respect, la présentation du rapport d'activité, la signature du protocole de mise en œuvre, entre autres?
Merci. C'est que nous sommes des légalistes. Nous vivons dans un pays et nous faisons la promotion de l'état, du moins de la bonne gouvernance. Mm-hmm. Nous sommes tenus de le respecter. Mm-hmm. Mais il y a souvent des difficultés qui font en sorte que certaines conditions n'arrivent pas à être remplies.
Mais quelles sont ces difficultés?
Souvenance, par exemple, ça fait presque 4 ans que notre protocole d'accord avec le CAT, avec le ministère, est arrivé à terme. Et nous cherchons à y renouveler. Nous n'y arrivons pas. À chaque fois que nous produisons des pièces, on arrive, on dit non, ça reste encore telle chose. Mmh. On cherche, on ramène. C'est devenu vraiment une véritable labyrinthe pour pouvoir arriver à le faire. Maintenant, pour les questions de rapport, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau. Il y en a plusieurs de nos structures membres qui le déposent. Mmh. Nous-mêmes, on est dans les processus de le faire. Nous le faisons selon les circonstances et nous. Parce que pour nous, c'est une très bonne chose que, par exemple, une structure qui est créée pour le développement puisse produire du développement. Mm-hmm. Et la meilleure façon de prouver que vous avez produit du développement, c'est de déposer vos rapports au niveau donc, du ministère de tutelle qui s'est bien contrôlé que vous avez effectivement fait le travail qui s'y est à la place de... Cette année, nous avons fait un truc qu'on a envoyé, mais il semble qu'ils aient changé le canevas de rapportage. Mm-hmm. Donc, on a demandé le canevas. Je pense que la semaine passée, le canevas nous a été parvenu. Nous sommes en train de reprendre pour nous conformer à la logique actuelle de truc de rapport.
D'accord.
Et c'est peut-être un plaidoyer que je veux faire auprès du secrétaire général. Nous souhaiterons véritablement qu'il s'implique pour nous permettre d'avoir ce théâtre-là.
Il vous écoute.
Nous sommes vraiment des légalistes et nous ne souhaiterons pas aller en dehors de ce que les lois et les règlements de la République nous autorisent à faire.
Monsieur Aboubakar, par rapport à ce décret, votre dernier mot pour clôturer?
Notre dernier mot, c'est ce cri de cœur-là, de pouvoir s'asseoir et de continuer les discussions en vue de trouver un terrain d'entente pour le bonheur des peuples nigériens.
Le secrétaire général, nous sommes presque à la fin de cette émission. Vous avez entendu le représentant des réseaux, du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire qui demande vraiment un terrain d'entente avec toutes ces ONG pour avoir des solutions avant vraiment la mise en œuvre concrète de ce décret. Vous, qu'est-ce que vous avez à leur dire rapidement? Quel conseil même à ces responsables des ONG?
Okay, vraiment, j'apprécie très positivement la position de M. Aboubakar du Rotab. Et je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses ensemble pour le bien des ONG, mais aussi des populations nigériennes. Au niveau du ministère, nous sommes inscrits dans une démarche de partenariat avec les ONG. Oui, c'est vrai, on parle de tutelle, mais nous, c'est des partenaires pour nous. Et notre mission, c'est de faire en sorte que le mouvement ait des performances améliorées. Mm-hmm. Et je pense que nous pouvons le faire ensemble. Et si on voit les assises que nous avions tenues en novembre passé, c'est autour d'un thème central, l'amélioration de la performance du secteur des ONG. Bon, je suis surpris quand même que le Rotab dise qu'il n'a pas participé aux assises, parce qu'on a quand même donné et affecté au moins 8 places par collectif.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, j'ai entendu son plaidoyer et aussi j'ai entendu son offre. Dès à présent, moi, je peux dire que nous sommes preneurs, en tout cas, pour participer.
Merci. Donc, le décret portant régime des ONG et associations de développement, comme nous vous le disons, a été adopté en février 2022. Ce projet constitue un dispositif d'assainissement et d'amélioration des performances du secteur des ONG et associations de développement du Niger. De par les interventions de nos invités, il s'avère nécessaire de trouver, de mettre un mécanisme pour vraiment mettre l'accent sur la communication entre les ONG et le gouvernement pour une bonne mise en œuvre de ce décret. Et il est nécessaire pour ces ONG aussi de respecter les dispositions de ce décret pour qu'elles s'acquittent pleinement de leur engagement. C'est ici donc que prend fin cette émission. Merci à nos invités. Il s'agit de M. Abdou Bachar Souleymane. Il est le secrétaire général du ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Merci d'être venu. Au bout de la ligne était resté Boubacar Iliassou du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire au TAB. Merci à vous également. Je suis Nafissa Adam Sirfo à la modération. La technique a été assurée par Mustapha Ayouba. À très bientôt sur le studio de Kalangou. Au revoir.